Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'est dimanche soir et c'est l'heure du Grand Fauve. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h bien sûr, so let's go Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là, l'œil du tigre mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Ancien combattant, militant socialiste et bistrot.
Là, il a marqué un point.
C'est de dire si dans ma vie, j'ai entendu des conneries. Il est comme ça, jamais.
À l'affiche ce soir, c'est l'histoire d'un fils de pêcheur californien devenu le plus grand joueur de baseball de tous les temps. Oui, c'est l'histoire d'un demi-dieu dans la mythologie américaine. Ce soir, c'est l'histoire extraordinaire de l'indépassable Joe DiMaggio. Entre la splendeur et les misères, voici la 40e étape de notre grand safari au pays de la culture de masse.
Tu nous prends pour des bourris ?
Oui, ça part.
Ça, c'est un excellent...
Burger Winter is coming.
La saison a débuté il y a quelques semaines et c'est le sport de l'été aux États-Unis. Et on sait combien le baseball occupe une place à part dans le cœur des Américains, à la fois parce que c'est leur passe-temps national, comme ils disent là-bas, mais aussi parce que Joe DiMaggio, figure tutélaire, incarnation éternelle du rêve américain avec sa part d'ombre, gloire et déboire, mais qui se cache vraiment derrière ce Pinocchio en pyjama rayé, mort il y a tout juste 20 ans? Eh bien ce soir, pour tenter de répondre à cette question, ils seront deux invités au micro d'Inter. Tout d'abord Jérôme Charine, romancier new-yorkais, né en 1937, donc il a vu DiMaggio jouer au Yankee Stadium, c'est incroyable, et il est l'auteur d'une excellente biographie de Joe DiMaggio. Et puis à ses côtés, un camarade de la maison, Frédéric Carbone, journaliste, ancien correspondant de Radio France aux États-Unis et surtout un passionné de baseball. Mais juste avant les mythes américains, nous accueillerons celui qui les tutoie, le Dominique Besnéard. Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
Alors qui est au programme ce soir ?
Elle a dit beaucoup de choses à beaucoup de monde, mais n'a jamais tout dit à qui que ce soit. Il s'agit de... Marilyn Monroe,
l'épouse aussi de Joe DiMaggio. Et enfin, juste avant 19h, bien sûr, le Give Me Five signé Joy Raffin. Salut Joy.
Salut Colin, bonsoir à tous.
Au programme ce soir.
Des records sur gazon et sur terre battue.
Très bien, à tout à l'heure. Surtout n'ayez pas peur et soyez les bienvenus dans l'œil du tigre.
L'œil du tigre, Philippe Colin sur France Inter.
Alors, ce soir, on commence avec les 24 heures du Mans qui auront lieu le week-end prochain au Mans. Tout est normal. 87e édition, un circuit automobile sur lequel est venu tourner un mythe d'Hollywood, un passionné de sport mécanique. C'était en 1970. Voici Steve McQueen en pilote. Voici le flashback.
On tourne un film sur les 24 heures du Mans. Le producteur, l'acteur, le voici, Steve McQueen. À 15 ans, il était mécano pour une compagnie de taxi. Son cachet aujourd'hui, 5 millions de francs. Il a engagé 20 millions dans le film. Le metteur en scène du film est John Sturges. À son actif, West Side Story, Les Sept Mercenaires, pourtant McQueen veille à tout. McQueen devant la caméra, McQueen derrière. Quand c'est bon pour tout le monde, pour McQueen, il faut recommencer. Les autres vedettes sont les voitures, avec elles non plus on ne triche pas. Elles ont toutes couru au Mans et pour les besoins du film, elles sont conduites par leurs pilotes respectifs. Entre chaque tour de piste, Sturges et McQueen discutent du scénario. Il n'est pas établi, le temps, la piste et les voitures en décident. McQueen n'est pas seulement producteur-acteur, il est aussi fin pilote et ne cède jamais sa place dans son baquet à quelques cascadeurs. Notre chasseur de primes, Joss Randall, a abandonné le cheval pour la voiture, mais que préfère-t-il ?
Well, horses.
Le cheval, c'est ton meilleur ami jusqu'à ce qu'il te tue. La voiture, c'est bien, mais je préfère la moto.
The motorcycles, good.
Oui, le fantastique Steve McQueen préférait la moto. Et lui, que préfère-t-il ? Le dos d'âne, la calèche ou le hors-bord ? Qu'importe, il arrive toujours à bon port. Nous l'avons réclamé, voyageur. Eh bien le voici, le voilà. C'est l'heure du Dominique Besnéard.
C'est fou la vie, hein.
Ce soir, Dominique, un autre mythe de l'Amérique.
La vie en avait fait d'elle une vedette. La mort en a fait une légende planétaire, une allure envoûtante, un réel talent de comédienne, une personnalité énigmatique, une vie privée orageuse et une fin restée mystérieuse. tels sont les éléments qui constituent le mythe Monroe, dont les proportions n'ont cessé de croître depuis le début des années 1960.
Et pourtant,
ce mythe cinématographique ne se justifie pas vraiment au regard des films que Marilyn a tournés, même ceux pour lesquels elle a offert ses compositions les plus remarquables, comme « Les hommes préfèrent les blondes » de Hawks, « La rivière sans retour » d'Otto Preminger, « Cette tendre réflexion et certains lames chauds » de Billy Wilder, « Le milliardaire » de George Cukor ou « Les désaxés » de John Huston. Plus que sa filmographie, c'est son aura singulière qui a fait d'elle une vedette légendaire.
Et elle-même, d'ailleurs, se plaignait, Dominique, d'être réduite à sa condition de sex-symbole.
Oui, mais en vérité, elle ne sut jamais y échapper. Il est vrai aussi que son existence entière fut une suite de traumatismes propres à briser les plus solides personnalités. Née en 1926, Marilyn connut tout d'abord une enfance solitaire, malheureuse, marquée par l'absence du père, puis plusieurs mariages, tous ratés. Dès l'âge de 16 ans, elle épouse James Dougherty, puis convole avec le champion de baseball dont on va parler ce soir, Joe DiMaggio, pendant moins d'une année, avant de s'unir à l'écrivain Arthur Miller. Cette vie conjugale est entrecoupée de liaisons malheureuses, dont les plus célèbres sont Yves Montand et les frères Kennedy. Marilyn affronte également une série de dépressions nerveuses qui ne sont peut-être pas étrangères à sa mort. On n'a jamais su si celle-ci était la conséquence d'un suicide, d'une overdose ou d'un assassinat politique.
Et à son corps défendant, Marilyn fut aussi l'incarnation du rêve américain.
Évidemment, car sa destinée de petite ouvrière dans une fabrique de munitions promise à une ascension fulgurante participe aussi à la création du mythe. En 1947, elle fait ses premiers pas au cinéma dans des rôles secondaires pour la Columbia et la Fox. Mais ses premières apparitions sont trop brèves pour attirer l'attention sur elle. Et 2 ans plus tard, elle se résout à poser nue afin de gagner sa vie. Ce n'est qu'en 1950 que les films « Quand la ville dort » de John Huston et « All About Eve » de Mankiewicz la font enfin découvrir au grand public. Marilyn personnifie bientôt la pin-up américaine par excellence, statut confirmé par son voyage en Corée en 1954 pour chanter devant les GI. Malheureusement, Marilyn reste le plus souvent cantonnée à des personnages de ravissantes idiotes ou de vamps stéréotypés, comme dans le médiocre Niagara de Henry Hathaway. Mais elle réussit parfois à leur insuffler cette sorte de trouble érotique irrésistible, notamment dans « Sept ans de réflexion » et « Certains l'aiment chaud ». C'est aussi là que réside le charme réellement bouleversant de ses meilleures chansons. « Diamonds are the girl's best friend » dans « Les hommes préfèrent les blondes » ou le prodigieux « My heart belongs to daddy » dans « Le milliardaire ».
Magnifique.
Le 5 août 1962, Marilyn Monroe est retrouvée morte dans sa villa californienne à l'âge de 36 ans. La police conclut à une overdose de barbiturique, mais n'explique en rien l'origine de ce décès. Pour mieux connaître les coulisses de sa disparition, je vous recommande le passionnant Marilyn 1962, écrit par Sébastien Cochon aux éditions Stock.
Eh bien voici Marilyn, chanteuse dans Le Milliardaire.
While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fit and hatty, I just adore his asking for more, but my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy. Da, 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 da.
My Heart Belongs to Daddy, hein, avec un accent. Dans le milliardaire, film extraordinaire où il y avait évidemment Marilyn Monroe. Marilyn qui fut donc l'épouse de Joe DiMaggio, le second mariage.
Un an,
ça a duré un peu moins, même 9 mois pour tout dire.
Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à la fin de sa vie, il a été là.
Hein. Absolument.
Et il a payé
les obsèques. Absolument.
Ça.
On va parler de Joe DiMaggio ce soir. Merci beaucoup, Dominique Besnard. À la semaine prochaine. Voici donc maintenant l'histoire du dimanche soir. Dans la préface à l'édition française de sa biographie de Joe DiMaggio, Jérôme Charine écrit que DiMaggio est un chevalier merveilleux dans un sport qui paraît presque médiéval par sa lenteur et la surabondance de ses rituels. Ce sport, c'est le baseball. Et Joe DiMaggio, fils d'un petit pêcheur californien, en est devenu une légende. Comment pouvait-il en être autrement quand, dans le New York Times, on pouvait lire sous la plume de George Vexey que sur le terrain, Joe DiMaggio est grand et mince, pareil à un saint dans une toile de Gréco. Oui, Joe DiMaggio fut un chevalier du Nouveau Monde, et quand il est mort, en mars 1999, sa nécrologie ressemblait à une chanson de geste.
Jolting Joe le ressort. DiMaggio ratait rarement son coup. Grâce à lui, l'équipe de baseball des New York Yankees a obtenu 4 titres consécutifs de champion d'Amérique. Un geste proche de la perfection et surtout un record rarement égalé. 361 tours de piste en 15 ans de carrière, près de 2000 points en 56 matchs consécutifs. 1951, la déception pour ses fans. DiMaggio met un terme à sa carrière, il n'a que 36 ans.
And so, I played my last game of ball.
3 ans plus tard, le célèbre numéro 5 devient le deuxième mari de Marilyn Monroe, de 12 ans sa cadette. Ils se sépareront 9 mois plus tard, mais resteront amis jusqu'à la mort du sex symbole hollywoodien. 1969, l'Amérique fête le 100e anniversaire du baseball. DiMaggio est sacré meilleur joueur de tous les temps. Dans les années 80, il participera à un spot publicitaire vantant les mérites d'une marque de café. DiMaggio, symbole d'une Amérique qui gagne. Sa dernière apparition en public date de septembre dernier, dans le stade qui si souvent l'avait vu triompher. Un mois plus tard, il est opéré d'une tumeur cancéreuse au poumon droit. Ce soir, le drapeau du mythique Yankee Stadium est en berne.
Jérôme Charine, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue.
Merci.
Vous êtes écrivain new-yorkais bien connu en France et vous êtes l'auteur d'une excellente biographie consacrée à Joe DiMaggio, disponible en français depuis quelques semaines aux éditions du Sous-Sol. Jérôme, pour commencer, qu'est-ce qu'il représente pour vous personnellement, Joe DiMaggio ? Peut-être des souvenirs d'enfance, pour commencer ?
Well, as a writer,
eh bien, en tant qu'écrivain, vous savez, je trouve qu'il avait un sens du style qui était pareil à nul autre joueur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ce livre « Portrait de l'artiste en joueur de baseball ». Pourquoi ? Parce qu'il était autant artiste que joueur de baseball. C'est ce qui m'a attiré en lui. Chez lui, la forme était parfaite. Si on le voyait jouer, on voyait qu'il était, comme je vous dis, à nul autre pareil. C'était comme une espèce de chorégraphie, comme une espèce de ballet. Dans chacun de ses mouvements, il y avait une grâce naturelle. Et lui-même, c'est lui qui a apporté cette grâce au jeu. Elle n'est jamais revenue après lui.
Jérôme, je parlais de votre enfance parce que vous êtes autour de cette table une des personnes qui a vu jouer Joe DiMaggio,
oui.
Ce qui est extraordinaire. Vous étiez gamin du Bronx, donc
oui,
à quelques
oui.
blocs du Yankee
oui.
Stadium. Quel souvenir vous avez de DiMaggio quand même dans le stade ? C'est assez incroyable quand même.
Well, it was extraordinary because,
c'était tout à fait extraordinaire. C'était comme un dieu. Quand il apparaissait, quand il sortait du dugout, des coulisses en quelque sorte, un silence complet s'est abyssé dans le stade. Chacun de ses gestes était suivi minutieusement par la foule. Tout était tellement bien orchestré qu'il était en contact permanent avec son public. On peut comparer à rien d'autre. Il y avait DiMaggio et tous les autres. Comme aujourd'hui, vous avez LeBron James et puis tous les autres.
Là, on parle de basket pour LeBron James. Frédéric Carbone, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes évidemment journaliste maison. Vous animez tous les soirs sur France Info la tranche 22h minuit. Sur
même
France
21h.
Info, 21h minuit, pardon, sur France Info. Vous avez été aussi correspondant de Radio France aux États-Unis et grand grand passionné de baseball, Frédéric Carbone.
Mais j'ai pas vu DiMaggio.
Non, ben, non, trop jeune.
C'est dommage.
Évidemment que c'est dommage.
Quelques images.
Vous avez raison. Néanmoins, en quelques mots, est-ce qu'on peut rappeler, Frédéric, ce que représente le baseball dans la société américaine pour bien comprendre pourquoi DiMaggio n'est pas un héros ordinaire non plus?
Je pense que si en quelques mots on veut résumer ce que représente le baseball, c'est que c'est pas un sport, c'est, ils appellent le baseball aux États-Unis le national pastime, le passe-temps national. Autrement dit, évidemment que c'est un sport, mais évidemment que c'est aussi quelque chose, enfin, pour moi, et je pense pour les Américains, c'est le jet de la balle du père au fils. Enfin, ça commence dans un jardin, dans un backyard de n'importe quelle ville américaine. C'est pas cher, ça coûte pas cher, l'équipement de baseball. Et tout ça se passe en famille avant d'être sur le terrain. Donc le soubassement du baseball, c'est celui-là. C'est le baseball raconte l'histoire de l'Amérique. Le baseball raconte le siècle américain.
Est-ce que c'est aussi le sport de l'intégration? Est-ce que les populations qui immigrent peuvent devenir américains en adhérant aussi à ce national pastime? Est-ce qu'on peut dire ça, Frédéric, ou pas?
Je pense que Jérôme Charine le saurait, le dirait mieux que moi. Pour DiMaggio, il y a une sorte d'évidence. Enfin, c'est l'immigration italienne, même si lui est né aux États-Unis. C'est vrai pour les populations latino-américaines. Il y a énormément de joueurs de baseball venus de Cuba maintenant. Il y a énormément de Cubains qui jouent, mais il y a énormément de joueurs venus de la République dominicaine, venus des îles de Caraïbes. La question est extrêmement plus complexe sur la question noire et le baseball. Parce que c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui a été le premier noir à jouer dans une équipe de baseball.
1947.
Voilà. Aujourd'hui, le baseball est quand même majoritairement blanc et latino aux États-Unis encore. Et vous racontez aussi dans votre livre, Jérôme Charine, que les Yankees de New York, qui est sans doute le club le plus célèbre, le plus titré aux États-Unis, a complètement raté. La question, aucun joueur, non. Quelques-uns des joueurs qui sont devenus des stars, des vedettes, Willie Mays et autres, les Yankees n'en ont jamais voulu.
Oui, il n'y a pas eu de joueur noir majeur aux Yankees. C'est un raté.
Raciste.
Oui, il y a un côté un peu étrange dans ce club à cet égard. Est-ce qu'on peut revenir à l'enfance de Joe DiMaggio, Jérôme Charine? Il est né en 1914 en Californie. C'est le fils d'un petit pêcheur californien d'origine sicilienne. Dans quel monde il grandit? C'est quoi l'enfance de Joe DiMaggio?
Well, his father was a fisherman.
Eh bien, donc, comme vous le dites, son père était pêcheur, d'une famille très pauvre. Il avait deux frères. Et son frère aîné, Vince, jouait lui-même au baseball. Donc, John s'est dit, pourquoi pas moi, je vais m'y mettre aussi. Et c'est ainsi qu'il a joué dans des clubs locaux, partiels. Il était là de temps en temps, il faisait ça un peu en dilettante, il faisait ça pas très au sérieux, mais quand même. Il avait un talent absolument incroyable. Et donc, il a très rapidement surpassé son propre frère et il est devenu le plus grand joueur de baseball de l'équipe de San Francisco qui s'appelait les San Francisco Seals. Les Seals de San Francisco, il a battu tous les records. Et il faut quand même se rappeler donc Babe Ruth qui était déjà à l'époque à la retraite. Donc, c'était un petit peu le successeur. Hein, le
c'était une grande vedette du baseball. Voilà, Babe Ruth.
Donc, il est devenu une vedette. Être une star dès qu'il a enfilé l'uniforme Yankee. Ça, c'est très inhabituel. Il n'y a aucun autre joueur dans l'histoire du baseball qui était ainsi devenu immortel avant même d'ouvrir sa carrière.
Très étrange.
Très étrange, en effet, parce qu'en fait, il a effectivement commencé un peu en dilettante pour devenir très vite une grande vedette américaine du baseball.
Mais oui, parce que comme je l'ai dit, sa forme était absolument parfaite. Dans son mouvement, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Il ne s'exprimait dans aucun autre langage que le baseball. C'était son langage. Et quand il est devenu commentateur sportif, il avait une fiche devant lui qui disait, où il y avait écrit Joe DiMaggio à l'antenne. C'était le langage corporel du sport qui était son langage. Ça, et quand il faisait l'amour à Marilyn Monroe.
Oui.
Ça, c'était un autre langage corporel,
absolument.
Oui. C'est
les deux langages, le baseball et le corps de Marilyn. Frédéric, vous êtes donc français, en effet trop jeune pour avoir vu jouer DiMaggio. Mais qu'est-ce qui représente pour vous ce DiMaggio? C'est quoi pour Frédéric Carbone, Joe DiMaggio?
Très honnêtement, jusqu'à ce que je lise le livre de Jérôme Charine, c'est évidemment un nom que je connaissais. DiMaggio et Marilyn, voilà, ça existe. Pour vous raconter une anecdote, moi, la première fois que j'ai lancé une balle sur un terrain de baseball, c'était dans un jardin, c'était à San Francisco avec mes enfants, et je ne le savais pas à l'époque, mais c'était juste en face de l'église où Joe DiMaggio et Marilyn Monroe se sont mariés. Mais voilà, j'ai appris. Moi, je trouve formidable l'histoire que vous racontez. Pareil, le record, on le connaissait, mais l'homme qui a réussi à frapper pendant 56 matchs consécutifs, pendant l'été 41, et à réussir à frapper une balle dans chaque match qui va dans le champ, parce que on mesure à quel point les gestes de baseball sont des gestes infiniment difficiles. Frapper est sans doute un des gestes les plus difficiles du sport, lancer est un des gestes les plus compliqués, et voilà, et ça c'est sans doute ce qui m'a fasciné le plus dans l'histoire de DiMaggio.
Et je crois que c'est un record qui ne sera jamais battu, à mon sens, parce que il faut pour cela avoir une concentration telle, match après match, il faut pouvoir à chaque fois frapper la balle qu'on vous lance. Hein. Et c'était ça sa grandeur, si vous voulez. Il a consacré toute sa vie au baseball.
Et toutes les balles, tous les matchs, tous les jeux étaient importants pour lui. Les stars, les vedettes, des fois, voilà, ils se concentrent pour les matchs importants. Là, tous les jours, à chaque fois, il remettait en jeu.
Mais oui, plus que ça, il était dans la vie quelqu'un de très timide. Il sortait pas au dîner en ville, rien. C'était quelqu'un qui... Justement, ses repas, il les faisait livrer dans sa chambre et il savait pas s'exprimer autrement qu'en faisant l'amour et en jouant au baseball. C'est tout ce qu'il savait faire pour s'exprimer. Et il est assez avare quand même, ce qui n'arrangeait rien. Et quand il est devenu plus vieux, pour avoir un autographe, il fallait raquer une centaine de dollars.
Très, très méchant. Pingre, très radin, paraît-il, Joe DiMaggio. Je vous remercie, Jérôme Charine, parce que vous m'avez expliqué quelque chose que vous n'avez jamais compris sur le baseball. Vous écrivez dans cette de biographie, l'essence du jeu que je n'avais pas moi saisi. Vous dites que dans ce sport, l'équipe est une communauté qui fonctionne à la façon d'une cruelle toile d'araignée pour emprisonner le frappeur dans ses fils et l'empêcher de progresser. C'est vrai que le batteur est tout seul au milieu de l'équipe adverse.
Oui, oui.
Et vous dites, et c'est tous contraints finalement ce jeu, et vous dites qu'à ce jeu-là, DiMaggio avait la faculté géniale d'échapper à la toile d'araignée. Et quand on a compris ça, on se dit qu'effectivement, comme il y échappait tout le temps, ça crée une sorte d'électricité dans le stade.
Oui, oui.
C'est que Joe avait ce pouvoir-là d'échapper à l'araignée finalement.
Oui.
Si vous aviez la chance de pouvoir le voir jouer, Henry Kissinger, quand il est venu pour la première fois aux États-Unis, il habitait à Washington Heights, et il a eu la chance de voir DiMaggio sur le terrain. Et alors, on peut aimer ou ne pas aimer Henry Kissinger, la question n'est pas là, mais ce qu'il a dit, c'est qu'il n'a jamais oublié l'expérience de voir Joe DiMaggio jouer sur le terrain. Il était littéralement inoubliable.
Alors, en 1941, les États-Unis entrent en guerre, évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale. DiMaggio est une star américaine et new-yorkaise. Dès l'année suivante, il est... Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il s'engage? Est-ce qu'il est incorporé? Est-ce qu'il veut faire la guerre? On ne sait pas trop. Qu'est-ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale? Il reste aux États-Unis, mais il est quand même militaire. Il va rater 3 saisons. Il se passe quoi pour DiMaggio pendant la Seconde Guerre mondiale?
That's a little bit unfair to...
Alors, disons que c'est un petit peu injuste envers DiMaggio. Il faut essayer de comprendre un peu le contexte. Je crois que certains des athlètes se sont engagés et ils sont battus pendant la guerre, mais d'autres ont proposé des matchs d'exhibition. Lui, il voulait continuer à jouer. Il voulait continuer à jouer et il s'est retrouvé coincé parce que s'il ne s'enrôlait pas, ça lui donnait une mauvaise image, un anti-héros ou un non-héros. Et alors, il a été obligé de s'enrôler, mais il ne s'est jamais battu, il n'a jamais même tenu une arme. Tout ce qu'il a fait, c'est jouer au golf avec des généraux.
C'est merde. C'est
un peu bête quand même.
Et oui, bien sûr, bien sûr. Cela dit, donc il va réintégrer les Yankees à la libération, enfin à la fin de la guerre. Il va refaire 6 saisons encore extraordinaires.
Ouais.
Et puis en 1951, il s'arrête. Il a 36 ans, est au sommet de sa gloire. Et là, Jérôme, il faut dire que c'est un choc national. C'est-à-dire que le départ à la retraite d'un joueur de baseball comme DiMaggio est largement commenté. Et il y a une grande tristesse américaine à voir Joe DiMaggio quitter le monde du baseball. Pour quelle raison ?
Il
faut voir qu'il avait quand même un peu perdu son talent. Il faut se rappeler que c'était quelqu'un de très, très sensible. Et donc, lorsqu'il y a eu toute cette histoire autour de savoir s'il devait, oui ou non, s'enrôler dans l'armée, ça l'a fait beaucoup souffrir, cette histoire. Et il s'en est jamais vraiment remis. Il n'est jamais redevenu le même après la guerre. Et quand il a tiré sa révérence, il sentait qu'il vieillissait, la magie était perdue, il n'arrivait pas à jouer de la même façon. Il faut voir, c'est quelqu'un qui croyait en la forme absolue, c'est ce en quoi il croyait. Il aurait pu gagner beaucoup d'argent, mais il ne pouvait pas donner au public ce qu'il attendait de lui. Il n'était plus le Jolting Joe.
Qu'on appelle donc Joe la châtaigne, finalement, hein, l'espèce de côté un peu électrique, c'est-à-dire le côté électrique de Joe DiMaggio. Oui. Est-ce que les New York Yankees, c'est une équipe que tu aimes, Frédéric Carbone? Cette équipe mythique de Joe DiMaggio?
C'est pas mon équipe.
Ouais.
Voilà. c'est moi, c'est l'autre côté, c'est côte ouest, c'est les Dodgers de Los Angeles, qui étaient d'abord côte est, parce que les clubs sont nés à l'est, et puis certains ont migré. Et comme je suis pas américain, je ne hais pas les Yankees. Mais aux États-Unis, soit on aime, soit on déteste les Yankees. Voilà, il n'y a pas de juste milieu. Moi, je ne suis que français, donc je prends plaisir quand même à voir les Yankees jouer. S'ils pouvaient perdre contre mes Dodgers à la fin de la saison, j'en serais ravi, mais je n'ai aucune haine pour les Yankees. Oui,
but c'est dommage parce que ce n'est pas vraiment les Dodgers de Los Angeles.
Non,
c'est
Brooklyn
vraiment
Dodgers.
Les Dodgers de Brooklyn.
Je sais, c'est pour ça.
So they were traitors.
Mais oui, c'était des traîtres. Parce qu'ils n'auraient jamais dû quitter Brooklyn. Ils gagnaient de l'argent, tout se passait très bien, l'équipe était excellente, mais ils voulaient gagner davantage d'argent encore.
C'est toujours une histoire de l'argent.
Eh oui, donc les Dodgers ont été migrés jusqu'à Los Angeles pour gagner plus d'argent. On va continuer à parler de DiMaggio dans sa seconde partie de vie, la vie avec Marilyn évidemment. Mais pour l'instant, c'est l'heure de l'orchestre sur Inter, emmené ce soir par Lizzo, jeune femme de Détroit, Michigan. J'aime son flow, le titre joué ce soir, Juice, ainsi soit-il, come on.
L'œil du tigre.
You know, someone asked Yogi Berra one time, If Joe DiMaggio were playing today, what do you think he would hit? And Yogi, without any hesitation, said about 240. He said, wait a minute. You're talking about the greatest guy that ever played the game of baseball. 10 World Series, 9 World Championships, and you said he'd only hit 240 or 250? And Yogi looked at him and answered in all seriousness. He said, well, after all, you got to realize he's 80 years old now.
Philippe Collin.
Let's bring him out. The Yankee Clipper, Joseph Yodes of Paul DiMaggio.
Sur France Inter.
Joe DiMaggio, légende du baseball au pays de l'oncle Sam, prend sa retraite en 1951. Il a 36 ans et comme l'écrit Jérôme Charine dans sa biographie, Joe DiMaggio prend alors le chemin classique de la légende sportive retraitée. Or, voilà que le destin frappe à nouveau à sa porte. Dès 1952, il épouse Marilyn Monroe. Le mariage ne dure que 9 mois. Mais il offre à DiMaggio un statut de demi-dieu dans la mythologie américaine et ajoutons que malgré ce divorce précoce, l'athlète et la starlette sont restés unis jusqu'à ce que la mort les sépare.
Marilyn Monroe avait 36 ans. Sa carrière avait été fulgurante. Malheureusement, sa vie privée était un échec total. À 16 ans, elle avait épousé un policeman devenu marine et qui ne joua aucun rôle dans sa vie. En deuxième noces, elle devint la femme d'une vedette de baseball, Joe DiMaggio. Le mariage dura 9 mois.
Et puis DiMaggio, il y a une célèbre photo de lui qui m'aime beaucoup, c'est celle à l'enterrement où il pleure. Il pleure en offrande, il pleure pas en contraction, il pleure en expansion. Elle est très très belle cette photo.
Jérôme Charine, c'est vrai que ce mariage avec Marilyn Monroe dure peu, dure très peu, quelques mois. Néanmoins, cette union, elle va offrir un destin extraordinaire à Joe DiMaggio. Ça va transcender son destin, Jérôme.
Vous avez raison, because it's very, very strange.
Et oui, vous avez raison, parce que vous savez, c'est quand même assez curieux. C'était un mariage mythique, pourrait-on dire, puisque elle l'a épousé parce que, bon, il y avait des photos publicitaires d'elle nue et aucune actrice n'avait jamais survécu à la publication de photos nues. C'était la mort assurée. Donc il a dû s'attacher à un prince américain. Or lui, c'était un prince américain prolétaire, si je puis dire, et c'est ce mariage qui a sauvé sa carrière à elle. Il s'était dit qu'elle allait quitter le cinéma, qu'ils allaient se retrouver en dîner en tête à tête, aux chandelles, avec 17 enfants.
Fonder une famille.
Et avec une bonne femme italienne qui lui ferait la cuisine. Bon, et d'ailleurs, vers la fin de sa vie, elle a dit quelque chose, ce qui m'a tellement, ça m'a beaucoup touché. Elle a dit, je ne veux pas gagner d'argent, mais je veux être merveilleuse. Et ça, il ne l'a jamais compris.
Il ne l'a jamais compris.
Il ne l'a jamais compris parce que lui, en tant que joueur de baseball, il était merveilleux, mais il ne voulait pas lui donner ce dont elle avait vraiment besoin.
Frédéric Carbone, ce qui est intéressant dans cette biographie de Joe DiMaggio, c'est de s'apercevoir quand même qu'il a été hyper classe avec elle jusqu'à la fin, puisqu'il faut savoir qu'elle était toute seule, Marilyn Monroe, quand elle est morte, et qu'il a payé toutes les obsèques, quand même, Joe DiMaggio.
Il est là, c'est presque lui qui dit qui peut et ne pas être aux obsèques de Marilyn. Il lui tient la main quand il est appelé, quand il la voit, et il entretiendra après cette image de Marilyn Monroe. Oui, il est extrêmement classe, mais c'est ce que dit Jérôme Charine, il lui offrait une vie boring.
C'était pas pour elle.
Et avec sa bande de potes dans un bar de New York, qui était le seul endroit où il était à l'aise à part un terrain de baseball. Si vous voulez, dans la famille Soprano, Joe DiMaggio, ça serait pas c'est pas Tony, quoi. C'est le troisième ou quatrième avec qui on s'ennuie un peu, quoi.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Jérôme, ce divorce, ça va le bouleverser. La mort de Marilyn, ça va l'effondrer.
Oui.
Et alors ensuite, il y a un côté un petit peu tragique après, parce que tout le reste de sa vie, il va entretenir sa propre légende, il va faire commerce un peu de ses reliques. Vous savez, quand on est champion aux États-Unis de sport, on a des chevalières, on a des objets, des bijoux, des bagues. Bon, oui. Et il s'est mis à vendre les bagues. Il y a un côté un peu pathétique aussi. Donc après la mort de Marilyn,
yes,
quand même.
Yes,
Oui, c'est vraiment triste. Parce que il n'avait pas, disons, l'éducation ou les codes qui lui auraient permis de faire autre chose. Il était monsieur café, il faisait des pubs pour une marque de café ou d'une machine à café. Et bon, il voulait gagner un peu d'argent, bien sûr. Il a quitté la Californie parce qu'il ne voulait pas payer les impôts là-bas et puis il s'est retrouvé à Hollywood, en Floride. Une ville qui s'appelait pareil. Mais c'était un avare, on l'a bien dit. Et alors, quand il était avec Marilyn, Marilyn s'est bien entendu avec son fils parce qu'il avait été marié avant, il avait un fils. Et son fils a très mal tourné parce que Joe avait été un très mauvais père. Donc, il réussissait à rien sauf au baseball. Il ne pouvait rien faire d'autre.
Puisqu'on est en train d'écorcher un tout petit peu la légende de Frédéric Carbone, dans ce qu'on aperçoit aussi dans le livre de Jérôme Charine, c'est que c'est aussi un homme du passé. C'est-à-dire que la lutte contre la ségrégation, la lutte contre le macartisme, la contre-culture, il est passé complètement à côté, Joe DiMaggio. Il appartient à une Amérique d'avant. Tout ce qui est après Seconde Guerre mondiale et les enjeux importants de la société, ça lui a complètement échappé.
Ça lui passe à côté, mais à un point... C'est-à-dire qu'il ne sait même pas que ça...
Enfin, oui, voilà, c'est
comme
ça.
Comme ça, c'est pas péjoratif.
Oui, bien sûr.
Il y a des gens qui, dans cette Amérique-là, ultra-conservatrices, ont été anti... droit civique, ont été macartistes. Lui n'a pas été ça.
Il est passé à côté.
Il est sur le terrain et c'est tout.
Alors, ce statut-là de légende, il n'est pas du cas Marilyn Monroe, puisque ce statut-là a été entretenu par de nombreux artistes, notamment Hemingway, par exemple, dans L'homme et la mer, cite DiMaggio, John Fante, dans Demande à la poussière, John Fante l'immense, John Fante parle de DiMaggio, Simon et Garfunkel, dans Mrs. Robinson, il chante évidemment Joe DiMaggio, et puis les artistes mondiaux comme Guy Pellart, par exemple, moi j'aime beaucoup, qui est un artiste belge, qui est un peintre belge, Guy Pellart, qui a souvent évoqué son attrait pour Joe DiMaggio, on l'écoute, c'est en 2003, Guy Pellart.
J'étais en train de travailler sur DiMaggio, et quand j'ai vu DiMaggio, qui a bercé quand même toute ma jeunesse, quand même au niveau des mythes, surtout que c'était le mari de Marilyn Monroe, j'avais donc je joue beaucoup avec des photos et j'aimais beaucoup cette tête. Pour moi c'était déjà positif. Et je ne sais pas pourquoi j'avais vu une photo de DiMaggio rajustant ses bretelles. Et j'avais lu qu'il quittait New York après fortune faite, gloire établie, etc., pour acheter la petite maison de pêcheur de son père à San Francisco. Et je me suis dit, tiens, au fond, ça fait deux fois qu'il a quitté New York. La deuxième fois, c'était quand il n'a pas supporté que sa femme montre ses jupes au-dessus d'une bouche de métro. Et je me dis, tiens, c'est quand même très touchant ce personnage parce que avec sa mentalité de macho italien, il s'est dit, tiens, je suis connu, j'ai plus rien à espérer, je vais racheter je rachète la petite baraque de mon père et je vais me ranger. Mais quand même, comme je suis célèbre, je vais pas prendre la petite brune italienne, je vais quand même prendre la blanche. Grave erreur au niveau de la vie, en fait de la tranquillité en tout cas. Et c'est comme ça que pour moi, DiMaggio rajuste ses bretelles, mais c'était la deuxième fois, disons.
Guy Pellart, peintre belge que j'ai beaucoup aimé moi dans ma vie. Quand on entend Guy Pellart parler de DiMaggio, Jérôme Charine, on comprend à quel point il incarne le rêve américain dans sa totalité. C'est-à-dire, il y a splendeur et misère, il est majestueux et tragique. Il y a tout chez DiMaggio.
He's almost Christ-like.
Oui, c'est une figure presque christique. Nous souffrons avec lui, nous pleurons la perte de Marilyn, la perte de son talent en tant que joueur de baseball. Nous lamentons sur la vieillesse, sur la souffrance. Et à sa mort, eh bien, c'était comme si un roi était mort. C'était une perte terrible. Parce que le souvenir de Joe DiMaggio, c'était, disons, était tellement, disons, aligné sur l'âme du pays que, à sa disparition, c'était une perte personnelle pour chacun.
Frédéric Carbone, aujourd'hui encore, il fascine toujours Joe DiMaggio aux États-Unis. Oui. Pour quelle raison, à ton avis? Est-ce qu'il incarne un monde englouti, qui est un monde d'une sorte d'époque dorée, ou est-ce que c'est un monde qui n'a jamais existé? Après tout, ça peut être un fantasme d'un monde des années 50, un peu comme ça, ou 40 ou 30. Pourquoi il fascine encore Joe DiMaggio?
En général, les deux, comme toute nostalgie. Effectivement, un passé. Effectivement, le sport américain aujourd'hui, le baseball aujourd'hui, n'est pas ce qu'était le baseball à cette époque-là. Et en même temps, il y a une reconstruction aussi de quelque chose qui aurait été absolument...
Un âge d'or absolu total.
Mais je pense aussi vraiment que on mesure pas en France à quel point aux États-Unis la statistique en sport et en baseball en particulier est quelque chose d'extrêmement important. Et ce record des 56 matchs en ayant frappé un coup sûr, parce qu'en français ça se traduit comme ça dans un match de baseball, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel et c'est reconnu comme tel par tous les Américains qui s'intéressent
au baseball.
Et d'ailleurs,
dans de nombreuses statistiques, il est encore très élevé encore aujourd'hui en 2019. Il est parfois deuxième, troisième, cinquième, ce qui est hallucinant 70 ans plus tard.
Bien sûr.
Ça montre le niveau de Joe DiMaggio en 50, 49, 47, 48. Il était quand même extraordinaire.
Ça suffit à conserver la légende, il me semble.
Jérôme Charine, un mot là-dessus, sur le fait qu'il fascine encore les Américains aujourd'hui, Joe DiMaggio.
Yes, but you have to remember that.
Oui, mais enfin, quand même, il faut se rappeler que la mythologie, quand même, s'assied en partie sur Marilyn Monroe. Hein. Elle est devenue une véritable mythologie à part entière, et cette mythologie-là ne disparaîtra jamais. Et lui, DiMaggio, y est attaché. Si vous détachez Joe DiMaggio de la mythologie Marilyn Monroe, certes, on se rappellerait les 56 matchs, mais on se souvient surtout de la tragédie d'un homme amoureux de Marilyn Monroe. C'est une histoire d'amour, finalement.
Frédéric, quand il meurt donc à Hollywood, en Floride, en mars 1999, on a peut-être un peu oublié, mais même en France, il y a une sorte d'écho, c'est une sorte de veillée funèbre nationale. C'est-à-dire que la mort de DiMaggio, c'est pour le coup comme une fin de monde. C'est-à-dire que peut-être qu'en fait, le XXe siècle meurt avec lui d'un point de vue symbolique. C'est qu'aux États-Unis, les télévisions sont en boucle, c'est la mort d'un roi. Joe DiMaggio est parti, l'Amérique avec lui peut-être, non?
Oui, mais parce qu'ils savent faire ça admirablement bien. Les hommes. Voilà, c'est la mort de Mohamed Ali il y a quelques années a été. Alors, les figures ne sont évidemment pas comparables et surtout pas dans les engagements. Mais l'Amérique se retrouve autour de figures comme celle-là. Et quand Jackie Robinson est mort, ça a été quelque chose, un moment absolument exceptionnel aussi. Alors oui, 99, donc oui, le XXe siècle est mort et sans doute est-il définitivement mort le 11 septembre 2001 après.
Jérôme Charine, est-ce que, quand j'ai donc lu ce livre et j'apprends que vous êtes né en 1937, que gamin vous faisiez des courses pour des livreurs, pour avoir un peu d'argent, un peu de pognon, pour aller voir DiMaggio jouer au Yankee Stadium. Je trouve ça assez merveilleux de vous voir ce soir ici face à moi, parce que c'est quand même des souvenirs d'une Amérique des années 30 et 40, donc c'est très beau.
Oui.
Est-ce que vous allez encore voir du baseball?
Non, moi
c'est le basket qui m'intéresse.
Maintenant le basket, d'accord. Et vous supportez quelle équipe?
Alors, j'aimais beaucoup LeBron James, mais quand il est allé à Los Angeles, il a tout loupé pour moi, un transfuge. Mais j'aime Kualat qui joue pour Toronto.
D'accord. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'être venus ce soir. Je précise que vous pouvez lire ce récit passionnant signé Jérôme Charine, Joe DiMaggio, l'inconsolable de Marilyn. C'est disponible aux éditions du Sous-Sol. Vous pouvez retrouver l'ami Frédéric Carbone sur l'antenne de France Info tous les soirs de 21h. C'est bien ça, 21h.
Bien noté.
À minuit. Merci beaucoup et merci à Robert Wolfenstein pour la traduction simultanée des propos de Jérôme Charine. Merci à vous deux. Prenez soin de vous. À bientôt. Ne quittez pas l'écoute car voici maintenant le Give Me Five de Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Rebonsoir Joy.
Rebonsoir Colin, rebonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on dans ce Give Me Five ce soir?
Eh ben ça y est, ça a commencé.
Eh oui.
Alors voilà, on commence à se familiariser avec les joueuses, à avoir nos préférées. C'est un peu comme une télé-réalité, finalement, on aime bien ça. Et il y en a une qu'il va falloir regarder de près, une footballeuse. Il s'agit de la brésilienne Marta. Adoubée par la légende Pelé, Marta rayonne sur le foot féminin depuis une décennie. La numéro 10, c'est pas rien quand même, du Brésil, est née dans la misère, vraiment. Elle s'est battue pour montrer qu'une fille aussi pouvait réussir en jouant au ballon. Et en France, c'est sur elle que vont reposer là clairement tous les espoirs de la Seleção pour arracher le seul titre qui lui manque. Alors au Brésil, Marta, c'est la reine, mais vraiment, on ne peut pas imaginer à quel point, dans un pays où le football est roi. Marta n'a pas l'aura de Pelé, hein, mais elle est considérée vraiment là-bas comme la queen du football, on la surnomme d'ailleurs la Pelé en jupe. Bon, c'est machiste ou pas, chacun y voit ce qu'il veut. Et celle qui vit à Rio de Janeiro est considérée par beaucoup, et à juste titre, comme la meilleure footballeuse de tous les temps. Marta Vieira da Silva, c'est l'image du football féminin dans son pays. Elle est super populaire, ça fait des années qu'elle est sur le circuit. Tout le monde l'aime, elle pose avec les plus grandes stars de tous les domaines qui soient. Voilà, elle est invitée dans les émissions de télé, elle fait la une des journaux. C'est un petit peu la Beyoncé du football, Dominique, je vois que tu me regardes. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup des comme elle, mis à part peut-être Formiga, hein, qui est une autre joueuse brésilienne connue pour sa longévité. Et encore, ça n'a rien à voir. Le foot féminin au Brésil, c'est Marta. Voilà, Marta et personne d'autre. C'est, il faut quand même savoir que c'est la sextuple lauréate du prix de la meilleure joueuse FIFA, hein, donc c'est quand même pas rien. Quatrième ballon d'or, décerné pour la première fois par France Football en janvier. Marta dispute là cette année sa sixième Coupe du Monde, compétition qu'elle n'a jamais, jamais remportée, mais dont elle détient le record de buts avec 15 réalisations. Ce qui est pas rien.
Mais oui.
Alors voilà, nous évidemment quand même, on va soutenir Eugénie Le Sommer ou Amandine Henry, mais attention à Marta.
Mais oui, à Marta, grande, grande joueuse de football planétaire. C'est bien de mettre évidemment un coup de projecteur sur des vedettes du football au féminin. Les Brésiliennes qui viennent de jouer d'ailleurs cet après-midi. Et sinon, déjà quelques infos chiffrées pour briller en soirée.
Ouais, alors j'en aurai plein comme ça un petit peu toutes les semaines. Donc là, trois petites comme ça. Voilà, alors trois. 3, c'est quoi? 3, c'est le nombre de Coupes du Monde remportées par une seule nation. C'est un record. Et un record détenu par les États-Unis. C'était en 1991, lors de la première édition. En 1999, chez elles. Et puis en 2015, hein, plus récemment, au Canada. 4, c'est quoi?
Je ne sais pas.
Ah bah voilà. 4, c'est le nombre de pays qui participent pour la première fois à la Coupe du Monde. Donc il y a le Chili, la Jamaïque, l'Écosse et l'Afrique du Sud. Et enfin 6, on l'a vaguement évoqué tout à l'heure, c'est le record de participation que se partagent la japonaise Omare Sowore et la brésilienne Formiga.
Et ça n'existe pas chez les garçons. Aucun mec n'a fait 6 Coupes du Monde. C'est bien de le dire, hein. Je crois que c'est 5 le record avec Lothar Matthäus qui a fait 5 Coupes du Monde. Et toujours, histoire de trucs calés sur cette Coupe du Monde, joye un peu de lecture.
Et oui, je vous conseille de lire le magazine L'Équipe qui recense là les meilleurs ouvrages sur le foot féminin. Et alors, il y en a un particulièrement qu'il faut lire. Ça s'appelle « Au bonheur des filles ». C'est fait par l'ancien journaliste de L'Équipe, Pascal Grégoire Boutreau, qui retrace l'histoire des femmes, des footballeuses qui, depuis maintenant plus de 100 ans, ont écrit et fait l'histoire du foot. Donc c'est un document qui se lit vraiment comme un roman, c'est passionnant. Au bonheur des filles, aux éditions des Cahiers Intempestifs.
Et alors après foot et lecture, maintenant foot et rap.
Ouais. Alors Assayatou Tunkara aime le rap et le rap le lui rend bien. Pour négocier son transfert dans le club espagnol de l'Atlético de Madrid, la défenseuse a été accompagnée par Dawala. Alors, vous ne savez peut-être pas qui c'est, mais je vais vous expliquer. C'est le patron de Watibi. Et si Watibi, ça ne vous dit toujours rien, Watibi, c'est ce label de musique et de rap qui produit notamment Section d'Assaut, Maître Gims et Black M. Voilà. Donc maintenant, les agences de rap se mettent au foot. On adore. Donc, on devrait voir régulièrement ces rappeurs dans les tribunes lors de les matchs de l'équipe de France.
Et il faut rappeler que Watibi a été grand sponsor de Montpellier, le club de foot, et que Louis-Nicolas a beaucoup porté le foot féminin en France, et que un des premiers sponsors du foot féminin en France était Watibi. Donc, un milieu rappeur qu'on dit parfois misogyne, et ben, pas vrai du tout, puisqu'ils ont soutenu dès le départ la première équipe pro en France par Montpellier.
Ouais, et puis Louis-Nicolas, qui n'a pas toujours une belle image.
Oui.
Il a quand même toujours été là pour soutenir le foot féminin.
Voilà. Et pour finir, j'ai eu ton conseil culturel du jour.
Eh bien, en ce jour de finale de Roland-Garros, je vous conseille grandement un livre sur le tennis. Alors, il s'agit de celui d'Arnaud. Arnaud Jamin, pour les auditeurs de l'œil du tigre. Arnaud qui travaille avec nous. Alors, on va pas se mentir, hein, je vous le dis. Voilà, regardez, je suis hyper cash. Mais si je vous en parle, c'est parce que c'est bien. Vraiment. Ça s'appelle Le Caprice Ingis et ça a paru aux éditions Salto. Le Caprice Inghis s'est publié évidemment à l'occasion du 20e anniversaire de ce qui est peut-être, hein, enfin ce qu'on dit être en tout cas, la plus belle finale d'âme de l'histoire de Roland-Garros. Le Inghis Graf du 5 juin 1999.
Steffi Graf, évidemment, voilà.
Voilà donc le score, hein, c'était 6-4, 5-7, 2-6. On se souvient voilà, que Martina Hingis avait commencé brillamment et puis s'était écroulée brillamment aussi. C'était assez magique. Et dans ce livre, Arnaud Jamin réhabilite en quelque sorte Hingis. Voilà, on se souvient de la rage, des pleurs, tout ça. Et 20 ans après, on comprend peut-être enfin, grâce à Arnaud, les gestes qui étaient ceux d'une immense championne.
Et oui, le Caprice Inghis, il a du style, Jamin, dans son écriture, c'est très bien écrit, ça a paru aux éditions Salto. Voilà, je répète, donc le Caprice Inghis, signé Arnaud Jamin. Merci Joy,
et,
à, et à la semaine prochaine.
Bye.
Salut. Et voilà, cette 40e émission de notre saison 4 a été coachée ce soir par H2M, l'incontournable Marco Mutel. Merci Marco, assisté ce soir à la technique de U2 Hack Lopez. Merci à lui, merci à toute l'équipe de l'U2, Arnaud Jamin donc, qui prépare cette émission avec moi. Merci Arnaud, Thierry Dupin pour les Scuds et Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine avec l'histoire d'un sport d'avant le sport. Que savez-vous du jeu de paume? On vous raconte cette folie française vieille de plusieurs siècles dimanche prochain. D'ici là, passez une excellente soirée et une excellente semaine. On vous attend dimanche prochain dans l'œil du tigre à 18h sur Inter. Salut et fraternité.